Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Antoine Bayrou.
Bonjour à toutes et tous, ravi d'être avec vous. Une demi-heure d'infos et à la une, le choc à Angers, une bagarre en plein centre-ville la nuit dernière. Trois jeunes tués à coups de couteau, un suspect interpellé. L'incendie du siècle en Gironde, près de 10 000 hectares déjà réduits en cendres. Le défilé sur les routes des vacances, vous nous écoutez peut-être en voiture, bison futé, voie rouge, Clément Terra. Est-ce qu'on a atteint le pic de bouchon?
Oui, le pic semble être passé à midi, mais c'est loin d'être terminé. Sur la 7, on compte 120 km de bouchons cumulés en direction de la Méditerranée.
Un point complet. Dans ce journal, nous sommes aussi en gare de Montparnasse. 2 millions de voyageurs attendus dans les trains ce week-end. Dans l'actualité également, les commémorations de la rafle du Vel'd'Hiv, c'était il y a 80 ans. Et puis, le Tour de France, la 14e étape entre Saint-Étienne et Mende, étape de baroudeur. La météo, Valérie Quintin, il fait très très chaud, jusqu'à 40 degrés cet après-midi.
Oui, alors pour le moment, dans le sud, les températures aussi encore entre 31 et 33 degrés. Mais c'est vrai que ça va grimper jusqu'à 40, voire un petit peu plus d'ici 16h, 17h cet après-midi. Ce sera le cas à Montauban notamment. On attend 38 degrés à Nîmes, 37 à Bordeaux, 34 degrés à Grenoble, 32 à Rennes, 30 degrés à Paris comme à Brest, 26 degrés à Lille. Évidemment, tout cela sous un soleil de plomb. Et notez qu'il y aura par ailleurs, et ça c'est pas une bonne nouvelle, du Mistral dans la vallée du Rhône avec des rafales jusqu'à 60 km/h en pointe.
Merci Valérie. Une question qui n'a rien à voir. Est-ce que vous aimez la pissaladière?
C'est un peu vert ça, non?
Ouais, c'est
ça. Ou alors
C'est pas trop un truc, mais restez quand même avec nous. Je vous donne la recette de Glenville, 3 étoiles au Michelin, qu'on a adoré dans Top Chef. Ce sera juste avant 13h. Ce drame, donc à Angers, la nuit dernière, en plein centre-ville. Trois jeunes, dont un adolescent de 16 ans, tués par arme blanche. Trois autres blessés. Un suspect a été interpellé, placé en garde à vue. Nicolas Bobby, vous êtes en direct à Angers. La thèse d'une rixe est pour l'instant privilégiée.
Oui, absolument. Tout commence par une rixe. C'est en fait un scénario en deux temps. Tout commence par cette rixe à 1h du matin sur l'esplanade Cœur du Maine, face à une rivière, loin des immeubles. Une vingtaine de jeunes écoutent de la musique. Un individu de 32 ans aurait mal parlé à l'une des jeunes filles présentes et jeté une enceinte musicale. Le groupe l'a expulsé manu militari. Ensuite, vers 2h50, la police est appelée sur place. Les gardiens de la paix découvrent une foule agressive et reçoivent des projectiles. Les secours prennent en charge trois jeunes de 16, 18 et 20 ans, chacun victime d'un coup de couteau de boucher au thorax, tous en arrêt cardio-respiratoire. Malheureusement, ces trois jeunes vont décéder rapidement. Trois autres blessés sont également pris en charge. Le tueur présumé qui a utilisé donc ce couteau de boucher, âgé de 32 ans, serait celui qui a jeté l'enceinte musicale lors de la première altercation. Il serait peut-être revenu pour se venger. Il a tout d'abord été interpellé par des témoins, puis, pardonnez-moi l'expression, passé à tabac, avant que la police municipale lui mette les menottes. Hospitalisé, placé en garde à vue, il n'a pas encore été auditionné par la sûreté départementale.
Et Nicolas, vous avez rencontré des amis de certaines victimes?
Oui, absolument, des copains, des amis, des ados complètement bouleversés qui ont assisté à la première altercation avant de quitter les lieux, ce qui leur a peut-être sauvé la vie.
C'est pour une embrouille de merde. Il y a un type, il a mal parlé à des filles, enfin, il a acheté une enceinte. Le type est revenu avec un couteau, bah, il a sauté dans le tas.
La musique les a dérangés, du coup, le mec, là, et il a pété un plomb.
C'était des bons gars, hein. Ça fait mal au cœur, hein. Ça fait mal au cœur, honnêtement, ça fait très, 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 très mal au cœur.
Ouais, on était une vingtaine et il y avait deux enceintes, ouais.
Il y a des tarés partout, faire attention.
La musique n'était pas très, très forte.
Perdre des proches, entre guillemets, enfin, des amis, enfin, ça fait mal au cœur.
Alors juste devant moi, la PTS, la police technique et scientifique de la police judiciaire, continue de procéder aux constatations. Il y a à côté de moi de très nombreuses traces de sang. Je suis sur un petit pont en bois. Ces traces de sang, eh bien, ce sont des victimes du tueur au couteau de boucher qui ont tenté de lui échapper.
Nicolas Bobian, direct d'Angers pour RTL. Toujours la nuit dernière, en Seine-Saint-Denis, un nouveau féminicide. Une femme de 31 ans tuée par arme blanche. Son conjoint interpellé, placé en garde à vue. RTL, midi 34, près de 10 000 hectares ravagés par les flammes en Gironde. C'est la superficie de Paris. L'incendie du siècle, selon les mots d'un pompier sur place. Nathan Bocard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de RTL à la Teste de Buch, sous la dune du Pilat, l'incendie stabilisé.
Oui Antoine, et cela signifie qu'il ne s'est presque pas déplacé depuis hier. Le nombre d'hectares brûlés reste le même, 3150 ici à la Teste de Buch. Alors attention, stabilisé mais pas fixé, le sous-préfet Ronan Léostic a tenu à le rappeler ce matin.
On ne peut pas considérer que le feu est sous contrôle. Il est contenu, mais voilà, il y a toujours des points de vigilance, des points de fragilité. Il y a un travail acharné qui est mené, donc de ce point de vue-là, c'est plutôt un motif de satisfaction.
Un travail acharné qui incombe désormais à 400 pompiers mobilisés sur la zone. Ils sont justement sur ces points de fragilité, à savoir le sud, puisque depuis hier, le feu menace le département des Landes. Mais cet après-midi, le vent devrait venir du nord-est et les pompiers craignent alors que les flammes se déportent en direction du littoral vers des zones qui n'ont pas encore brûlé.
Et à Landiras, au sud de Bordeaux, Nathan, la situation n'est toujours pas maîtrisée.
Non, car là-bas, le vent a poussé le feu toute la nuit. 1500 hectares sont partis en fumée rien que dans les dernières heures. Alors heureusement, la zone est un peu moins peuplée là-bas, mais plus de 2000 personnes ont quand même été évacuées.
Nathan Bocard, en direct de la Gironde, merci à vous. Les forêts brûlent au moment où la France étouffe. 16 départements en vigilance orange canicule, jusqu'à 40 degrés attendus ce samedi. Attention donc à la chaleur si vous êtes en voiture. Dans un instant, nous sommes sur une aire d'autoroute entre Toulouse et Carcassonne. Pause fraîcheur, pause pique-nique. A tout de suite sur RTL.
RTL Midi. RTL Midi avec Antoine Cavallero.
Midi 38 sur les routes, drapeau rouge dans le sens des départs, hissé aujourd'hui par Bison Futé, le pic a été atteint. Dans un instant, un point complet, mais d'abord la sacro-sainte pause pique-nique sur l'aire d'autoroute. Valentin Larquier, vous êtes avec des vacanciers à Port-Lauragais, entre Toulouse et Carcassonne, et vous avez sorti la nappe à carreaux.
Oui Antoine, mais pas que la nappe, hein. C'est l'heure de sortir la glacière, les chips, la salade, tout ce qui va bien. Tenez par exemple, c'est le cas de Mathieu et Julie, ils sont partis de Bayonne pour Argelès-sur-Mer ce matin et je les retrouve à l'ombre d'un parking sandwich en main.
Un petit sandwich suédois Serrano Pesto.
Et alors il est bon ?
Il est délicieux.
La route ça creuse, donc un petit sandwich ne fait pas de mal. On les a achetés ce matin à la boulangerie avant de partir. On préfère que d'aller, de s'arrêter sur les stations-service où ça reste quand même assez cher, je trouve.
Et Armelle, à quelques mètres de là, rentre elle de vacances. Elle était à Souston, dans les Landes, et elle a prévu de quoi se ravitailler.
Ah, je me suis fait une petite salade grecque, parce que j'aime bien, et puis un peu de melon. Comme j'étais en fait dans un surf camp, j'avais encore quelques petits restes, et du coup j'en ai profité pour me faire un anka pour midi.
Bon appétit, ça a l'air bien bon en plus.
Ah bah oui, faut pas se priver, hein.
Voilà, les tables de pique-nique de l'aire de Port-Lauragais sont prises d'assaut. Celles à l'ombre, hein, surtout, puisque au soleil, vu la chaleur, je vois pour l'instant pas grand monde.
On les comprend, merci. Valentin Larquier sur une aire d'autoroute entre Toulouse et Carcassonne. Clément Terrat, à présent, votre guide sur la route ce samedi. Clément, ça roule difficilement hein, quand on descend vers la Méditerranée. C'est un classique.
Eh oui, Antoine, ce n'est pas une surprise. C'est dans la vallée du Rhône que vous êtes le plus ralenti. Près de 75 km de circulation en accordé. En descendant dans le sud-est, les ennuis commencent dès le sud de la banlieue lyonnaise. Il vous faut vous armer de patience jusqu'à la sortie de Valence. Au moins, au total, comptez au minimum 2h30 de plus que d'habitude pour rejoindre Orange depuis Lyon. Enfin, dans l'ouest du pays, c'est sur l'A10 en direction de Bordeaux que le trafic s'intensifie. De gros ralentissements sur une quarantaine de kilomètres après la sortie 24 au niveau de Jouy-les-Tours, mais également en périphérie de Bordeaux. Il vous faut donc plus de temps pour rejoindre la Nouvelle-Aquitaine. Comptez là encore 2h30 de plus que d'habitude pour le trajet Paris-Bordeaux.
Merci Clément, on vous retrouve à 13h. Les routes encombrées, les gares également. 2 millions de voyageurs attendus ce week-end, des vacanciers qui ont hâte d'arriver. Il faut dire que le programme est plutôt chargé.
Alors, au programme de nos vacances, le farniente, la lecture, la baignade en piscine. Où qu'on aille, ça sera quand même assez chaud et on va pouvoir se vautrer et attendre que ça passe.
Moi, je vais aller à la piscine aussi.
Baignade, plage et travail. Mes enfants doivent réviser leur base de l'école de cette année.
Moi, c'est plage et lecture.
Absolument, nous sommes contents de partir en vacances.
D'abord, moi, je vais travailler une heure par jour et on va beaucoup se baigner à la plage. Mais aussi, il y a une piscine d'eau salée, du coup, on va pouvoir se baigner dans la piscine d'eau salée.
Bonnes vacances.
Oh bah merci, c'est très gentil. Voilà, des voyages rencontrés ce matin par Tom Lefebvre à Montparnasse, à Paris. Les trains remplis, les avions aussi, sauf chez Transavia. La grève se poursuit ce week-end pour la compagnie aérienne. Un vol sur trois annulé aujourd'hui, un sur quatre demain. RTL midi, 42 minutes. Nous sommes le 16 juillet 2022, il y a 80 ans. L'un des événements les plus tragiques de notre histoire, la rafle du Veldiv. Près de 13 000 juifs français traqués, arrêtés, puis déportés vers les camps d'extermination. L'historien Laurent Joly vient de publier un livre sur cette tragédie. Il démontre le rôle joué par la police française au service des nazis.
C'est une opération de police. C'est 100% préfecture de police de Paris. Ce que j'ai découvert, c'est que le taux d'échec de la rafle est plus important qu'on le pensait. Ah oui. En fait, les deux tiers des gens n'ont pas été trouvés. Et c'est ça le paradoxe de la rafle du Veldiv. C'est que c'est la plus grosse opération qui a eu lieu en Europe de l'Ouest. Il n'y a pas une plus grosse opération. On a arrêté 13 000 personnes en moins de deux jours. Et en même temps, pour les autorités, c'est un échec parce qu'on en a arrêté sur les 27 400 fiches d'arrestation qu'on avait établies. On n'en a arrêté que 9 000, plus 4 000 enfants.
Laurent Joly, auteur de La rafle du Veldiv, Paris, juillet 1942, aux éditions Grasset. Invité ce matin d'Alexandre de Saint-Aignan sur RTL. Et demain, Emmanuel Macron sera à Pithiviers dans le Loiret. Deuxième site de déportation avec Drancy, la gare va devenir un lieu de mémoire. Le président va prononcer un discours très attendu, très offensif, nous promettons, sur l'antisémitisme.
RTL Tour de France 2022.
La 14e étape de la Grande Boucle, la traversée du Gévaudan, notamment de Saint-Étienne jusqu'à Mende. Le coup d'envoi a été donné il y a quelques minutes. Christophe Paco, on vous retrouve sur place.
La route de Tours, il fait très chaud, ça c'est la formation principale, 32 degrés, une étape qu'on annonce mouvementée, et c'est le cas dès le début, depuis 10 minutes maintenant, nous sommes partis de Saint-Étienne devant le chaudron de Geoffroy Guichard, direction Mende dans Lozère pour la fameuse montée Jalabert, 192 km 500 de course, et d'entrée, une petite côte au 14e kilomètre, on va y arriver dans quelques instants, côte de 3e catégorie, la côte de Saint-Just-Malmont, 18 coureurs tentent de s'échapper pour l'instant, avec notamment deux Français à l'intérieur, Valentin Madouas et Cosnefroy. Un petit groupe donc qui vient de s'élancer de Saint-Etienne. Il y aura pas mal de petites côtes aujourd'hui, Antoine. Hein. C'est la première côte, c'est Saint-Just-Malmont. Dans 5 minutes maintenant, nous serons dessus. Ensuite, la côte de Châtaignier, de Grandieu, de la Fage et cette fameuse côte de la Croix-Neuve, baptisée depuis 1995 maintenant, Antoine. La montée, Laurent Jalabert, qui l'avait emporté qu'un beau maillot vert à l'époque ici, un 14 juillet. Et pour tout vous dire, sur la route du Tour, parce qu'on vous raconte tout, elle est à côté.
Allez-y,
vous
allez-y.
Vous trouverez la moto d'RTL dans quelques instants, bien sûr, avec Nicolas Georgiou et toute l'équipe de Christian Olivier. Hortense Crépin. Nous sommes dans la montée Jalabert qui est toute de jaune vêtue. Mais le petit souci, c'est qu'il y a une voiture de gendarmerie qui a pris feu il y a quelques minutes. Nous sommes tous bloqués puisqu'il va falloir évacuer. Il n'y a pas de blessés, bien sûr. Hein. Il va falloir évacuer cette voiture. Puis avec les risques d'incendie, on prend toutes les garanties pour éviter tout problème dans cette montée Jalabert pour l'instant.
Et vous allez dire que je radote, Christophe. Jamais. Mais est-ce qu'on peut attendre une étape pour nos Français?
Mais ils sont bons, les Français. Ils sont.
Ah non, mais ils sont très bien. Classement général, mais c'est vrai qu'on aime toujours les victoires d'étape. On l'attend.
Je vous comprends. Aujourd'hui, au moins, hier, il n'y avait aucun Français dans l'échappée. Là, il y en a au moins déjà deux. Donc, c'est pas mal dans ces 18 premiers coureurs à s'échapper. Ça ne va pas arrêter d'attaquer toute la journée, de toute façon. On va voir si c'est la bonne échappée après la première côte. Mais c'est vrai que depuis 1999, où il n'y a pas eu de victoire d'étape française, on aimerait bien qu'aujourd'hui, il y ait un petit Français, comme à une époque où il y a eu Thibaut Pinot ici avec Romain Bardet, qui sont chamaillés pour la victoire. Et c'est un autre coureur, Stephen Cummings, qui a réussi à les passer devant. On aimerait bien avoir un Bardet, un Pinot aujourd'hui qui s'est vainqueur ici à la montée Laurent Jalabert à Mende.
Non, et puis c'est vrai qu'il reste quand même quelques étapes. Merci beaucoup, Christophe Paco. On vous retrouve à 13h pour un nouveau point sur cette étape de Saint-Étienne jusqu'à Mende. Un mot de rugby, l'Irlande victorieuse en Nouvelle-Zélande. Deuxième succès en deux matchs, le 15 du trèfle qui rafle la première place au classement mondial. Pour la première fois depuis 1994, les All Blacks enchaînent une deuxième défaite consécutive à la maison. Une pause et dans un instant, on a rendez-vous avec le cofondateur de la Japan Expo, troisième plus gros salon de France. 250 000 visiteurs attendus jusqu'à demain à Villepinte dans le nord de Paris. La folie du manga, une BD sur deux en France. Tenez-vous bien, c'est un manga, c'est une bouffée d'air pour nos libraires. A tout de suite sur RTL.
RTL midi. RTL Midi, Antoine Cavallero.
RTL Midi 48, notre invité, Thomas Sirdet, l'un des cofondateurs de la Japan Expo. Bonjour.
Bonjour.
La folie du manga, de la culture nippone de façon plus générale, c'est au parc des expositions de Villepinte jusqu'à demain dimanche, le troisième plus gros salon en France après celui de l'agriculture, celui de l'automobile. C'est énorme, plus de 250 000 visiteurs étaient venus en 2019. 2019, car oui, c'était la dernière édition, 3 ans d'absence à cause de la pandémie du Covid. Thomas Sirdet, comment vous avez fait pour tenir le coup ?
Eh bien écoutez, nous avons tenu le coup pendant toute cette période Covid, grâce bien sûr aux aides de l'État, grâce au chômage partiel, grâce à un prêt garanti par l'État que nous avons pris, et surtout grâce à la patience de nos équipes qui ont tenu le choc et qui ne pouvaient pas travailler, qui étaient très frustrées, et qui maintenant sont à nouveau à fond, donc on les remercie fortement.
Et là, à mi-parcours on va dire, vous êtes satisfait, le public est au rendez-vous ?
Le public est au rendez-vous et c'est assez intéressant parce que bon, bien sûr, il y a beaucoup de monde qui vient, donc on est hyper content. Mais surtout, les gens sont hyper heureux d'être là. On sent que on avait besoin de se retrouver. Il y a des gens qui disent sur les réseaux qu'ils ne s'étaient pas vus depuis 2019. Donc ça, c'est dingue. On est à un endroit où on se retrouve entre copains, on se retrouve en famille. C'est l'opportunité de partager sa passion et de s'amuser en groupe.
Est-ce qu'on a déjà une idée des chiffres de fréquentation ?
C'est un peu compliqué, mais... On devrait faire mieux qu'en 2019.
Donc mieux que 250 000 visiteurs. Cette année, Thomas Sirdet, le ticket pour les 4 jours, c'est 77 €. C'est une somme quand même. Qu'est-ce qui justifie un prix aussi élevé ?
Eh bien, c'est que nous avons 140 000 m² de festival. Il y a 14 scènes. Il y a des centaines d'animations sur le festival, organisées par des assos, organisées par des groupes. Les spectacles sont non-stop sur scène et tout est accessible gratuitement. Donc, on peut très bien rentrer dans le festival et ne faire que passer d'une animation à l'autre et sans s'apercevoir, c'est déjà le soir.
Bon, et quand on parle Japan Expo, on pense évidemment au manga. Le manga et la France, c'est une histoire d'amour assez incroyable. C'est le deuxième marché au niveau mondial. En France, une BD sur deux est un manga. 47 millions d'exemplaires vendus en 2021. Comment vous expliquez, Thomas Sirdet, cette passion des Français pour le manga ?
De base, la France est un pays qui est friand de bande dessinée, donc c'était un terrain tout à fait fertile pour le manga. Et c'est vrai que quand le manga est arrivé, il a rempli une case, si je puis dire, qui correspondait aux adolescents, qui n'étaient pas du tout adressés, puisque soit on parlait aux petits, soit on parlait aux grands, mais on ne parlait pas à l'entre-deux. Et dans les mangas, si vous regardez, ce sont des héros qui ont, on va dire, entre 10 et 15 ans, qui se posent des questions
de
sur l'apprentissage, voilà, une très forte identification. Et puis aussi, ce sont des séries. C'est des séries au long cours. Vous suivez votre héros, il grandit avec vous, il évolue. Si vous regardez un personnage, même comme Luffy de One Piece ou Sangoku de Dragon Ball, il grandit avec les lecteurs. Donc du coup, il vous accompagne. Et c'est un petit peu comme un roman d'initiation, d'une certaine manière. Il vous retrouvez des problématiques comme l'amitié, la découverte de l'amour, le fait de devoir apprendre et se surpasser pour pouvoir affronter des nouveaux obstacles dans la vie, qui sont des choses, des problématiques qui sont très fortes pour les adolescents.
La Japan Expo, c'est aussi le temple du cosplay. Alors, rapidement, en quelques mots, c'est quoi le cosplay ?
Le cosplay, c'est une contraction des mots costume et play. Donc le but, c'est de fabriquer soi-même, très important, un costume et d'endosser le rôle de son héros préféré pendant la durée du festival. C'est un peu à l'image d'un carnaval, si vous voulez. Ça vous permet de sortir des codes habituels et puis de vous éclater. Et puis après, vous revenez à la vie réelle, tout va bien. Mais au moins, pendant 4 jours, vous vous êtes énormément amusé. Et il y a des gens qui font des cosplays très très simples, parce que parfois, c'est peut-être une petite touche qui rappelle un personnage, jusqu'à des gens qui participent à des concours. Nous, on a un concours international qui s'appelle le European Cosplay Gathering, qui réunit 15 pays d'Europe, qui nous envoient leurs meilleurs cosplayers. Et là, c'est un spectacle sur scène, mais c'est grandiose, puisqu'il y a bien sûr les personnages, mais aussi des décors, des effets spéciaux. C'est juste incroyable à voir.
Et côté cuisine, on mange quoi à la Japan Expo ?
On mange bien, puisque le Japon, c'est un peu le deuxième pays de la gastronomie.
Ouais,
après la France.
On peut dire
coup,
ça, ouais.
On découvre des karaage ou des poulets frits, vous trouvez des sushis, bien sûr, vous trouverez des takoyaki qui sont des petites boules de crêpes avec du poulpe. Enfin, énormément de choses qu'on connaît, que l'on connaît moins, qu'il faut découvrir.
Bah, ça donne envie, ça donne faim aussi. Merci beaucoup, Thomas Sirdet.
Merci à vous. Il reste encore un jour pour profiter du festival et on vous attend toujours plus nombreux parce que plus on est fou, plus on rit.
Oui, adage jamais démenti. Thomas Sirdet, cofondateur de la Japan Expo, merci d'être venu nous voir dans RTL Midi. La Japan Expo, c'est jusqu'à demain. Rendez-vous au Parc des Expositions de Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Dans un instant, la recette de la pie saladière, mais pas n'importe laquelle, celle de Glenviel, le chef de la Brigade Orange dans Top Chef. A tout de suite sur RTL.
RTL Midi. Avec Antoine Cavallero. RTL.
On est sur une recette un peu provençale.
Allez, sel, piment, d'Espelette.
On ajoute de l'huile d'olive.
On a fait une entrée facile, fraîche, d'été.
Les recettes de l'été.
En vous souhaitant un bel appétit si vous êtes à table et puis si vous cherchez encore une recette ou alors pour ce soir, comme tous les jours, une idée de l'été, une recette estivale et gourmande proposée par notre reporter à TOC, Pierre Herbulot. Bonjour.
Bonjour.
La promesse, une recette estivale de grand chef garantie, facile à refaire à la maison.
Oui, alors pour une fois, on va déroger un tout petit peu à la règle, mais promis, après la chronique, je vous donne la version facile. De quoi ? De la pie saladière de Glenviel, jury de Top Chef, 3 étoiles Michelin.
C'est qui a crevé l'écran cette saison. Hein.
Absolument. C'est la version servie dans son restaurant. Il l'appelle même la pizza ladière parce qu'il y a une petite pâte à pizza dessus. Voilà, donc son restaurant, Lousteau de Beaumanière, un écrin magnifique au Beau de Provence dans les Bouches-du-Rhône.
Eh bien, on y va tout de suite et on écoute la recette.
Bonjour Glenviel.
Bonjour. On va faire la pizza ladière. Donc on va dire une rencontre entre une pizza et une pizza ladière. Donc tomates fraîches, oignons, pâte à pizza bien sûr, rousse de vache. Donc là il y a le petit pain de mie qu'on a tranché finement, qu'on a imbibé, vous voyez, huile d'olive, tomates fraîches hein, pour le côté fraîcheur. On va disposer comme ceci au milieu de l'assiette. Ensuite, on a fait une petite compotée d'oignons. Ah, c'est pas du bluff, c'est monté en direct. Hein.
Comment on fait la compotée d'oignons, chef ?
Ah ben, on émince les oignons, on les fait revenir avec du thym, un peu d'ail, etc. Bon assaisonnement. On mouille avec du fond blanc, nous.
Un bouillon de volaille, quoi.
Exactement. Donc même à l'eau, si vous n'avez pas, après, une fois que l'oignon il est cuit, on le sort du bouillon et on fait réduire le bouillon à part.
Ouais.
Et après, on additionne les deux, quoi. Il faut quand même garder un tout petit peu de mâche sur l'oignon, quand même, parce que moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de mâche. Hop, voilà, donc vous voyez, il y a le petit pain qui est en dessous, l'oignon qui est en dessous. Là, on va mettre juste un petit peu de jus d'oignon aussi qu'on a récupéré, là. C'est un jus d'oignon, voilà, on peut faire revenir des oignons. On les fait bien, bien caraméliser, mais pas trop quand même, parce qu'il faut quand même qu'on... Faut pincer les sucres, mais avec modération. Voilà, hop, petite pâte à pizza qu'on a cuit au panini. On vient disposer dessus.
Étaler très finement, c'est ça ?
Très finement. Elles font combien de grammes, les gars ?
3,5 grammes.
Ça apporte la finesse et l'élégance et le craquant à la découpe, vous voyez. Donc voilà, vous voyez, on a incrusté dans la pâte à pizza de l'origan, un peu de romarin.
Il y a du basilic,
exactement. Ensuite, pour la fraîcheur, la petite brousse qu'on met comme ça à la poche à douille. Voilà, quelques petites herbes, petites fleurs côté un peu comme ça, champ. Ça apporte l'idée d'une saisonnalité aussi, c'est important. On va mettre dessus aussi quelques noix de... des petits noyaux d'olive. Vous voyez qu'on a cassé les petits noyaux d'olive, on a des petites graines à l'intérieur. Alors ça, c'est très puissant. Donc, on en met, vous voyez, on est encore en service.
Hein. Eh oui, bah, on triche pas. Hein.
Ouais, c'est en live, hein, pour le coup, c'est pas. Voilà, on va en mettre.
C'est des noyaux d'olive.
Ouais, ouais.
On peut les manger, du coup.
Ouais, bien sûr.
Qu'est-ce que vous avez fait ?
Bah, c'est juste à l'intérieur, séché, voilà.
Ouais, d'accord.
Voilà, on peut rajouter aussi comme ça de la fraîche, voilà, comme ça. Hop. Très volumineux, très graphique.
Et là,
un peu de balsamique. Acidité, sucrosité, ouais. Voilà. Mais voilà, c'est fini.
C'est facile la cuisine. Hein.
Ouais.
Bon, on va goûter.
Bah, avec plaisir.
Vous avez entendu le craquant là, ouais. À travers le.
Bon, déjà, c'est absolument délicieux. je peux le dire. Il y a un bon goût d'oignon, un petit peu confit. On a ce côté un peu craquant, un peu pâte à pizza aussi avec la petite pâte dessus et la fraîcheur de la brousse. C'est.
La tomate, hein, parce qu'on la sent bien. Hein. Bon, ça, c'est un plat qui est servi sur un menu végétarien. Donc, l'idée, c'est d'avoir des émotions et d'harmoniser des goûts. C'est jamais évident parce que la perception qu'on a à nous les uns des autres, elle est complètement différente, elle est jamais la même. C'est toujours important d'ailleurs de goûter, c'est ce que je fais tous les mois. Je mange ma carte une fois par mois. Tous les mois, on mange la carte entièrement.
Merci beaucoup, Glenviel, pour cette pizza ladière. Donc, merci beaucoup, chef.
Oui, cette pizza ladière qui fait donc envie, hein, ça a l'air plutôt incroyable comme recette, mais un poil technique quand même, Pierre. Vous nous avez promis la recette plus simple. On vous écoute.
Je vous la donne. Il n'y a rien de plus simple. Vous allez voir. Vous épluchez des oignons, vous les émincez. Une grosse quantité. Vous pouvez facilement en faire une dizaine. Ensuite, vous mettez de l'huile dans une casserole. Vous envoyez les oignons. Vous les salez légèrement. Ça va permettre à l'eau de cuisson de s'échapper. Et puis là, vous y allez tranquillement pendant une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. À la fin, les oignons doivent être blond foncé, quasiment brun, mais pas cramé. Attention, on fait attention à la cuisson. Vous étalez une pâte en rectangle sur la taille de votre plaque qui va au four. Vous mettez les oignons cuits, des anchois, des olives noires, des noyautés au four 25-30 minutes. Dès que la pâte est cuite, c'est prêt. Et là, vous avez une pisse saladière qui est splendide.
On l'imagine parfaitement. Merci Pierre Herbulot. Toutes vos recettes de l'été à retrouver sur RTL.fr, sur l'application Glenviel et sa pizza saladière sont aussi sur nos réseaux sociaux.